Bonjour à tous. Vous allez bien? Les enfants, la rentrée, c'était super. Je vois sur votre visage. Les emplois du temps, les cahiers. Un sujet de louange que n'a pas été cité ce matin, c'est que hier, nous avons pu entourer Desrosiers et Ordeline, qui ont uni leur vie devant Dieu, et c'était un grand sujet de joie. Révolté ou repentant ? Nous étudions depuis début août Monsieur Job et cet homme intègre et droit qui a été mis au test dans sa vie, qui n'a pas accepté de tomber où le calomniateur voulait l'amener, qui n'a pas écouté la voix du découragement, mais qui entourait petit à petit de ses amennemis. On a créé un petit mot, amennemis. Les amennemis, ce sont ses amis qui finalement agissent comme des ennemis. Ceux sur qui on compte et qui finalement font un travail de destruction dans nos vies. Et à force d'écouter ces amennemis, eh bien, nous avons trouvé Monsieur Job tournant le doigt vers Dieu et l'accusant de tous ses maux. Nous avons trouvé Monsieur Job se trouvant même mieux que Dieu. Et heureusement, un de ses ennemis, ou amis plutôt, Monsieur Élihu, a pu le préparer à rencontrer Dieu. Mais en y venant, Monsieur Job a dit « J'y vais comme un prince et Dieu va me répondre. » Mais nous avons vu la semaine dernière dans Question pour un champion que Monsieur Job n'était pas tout à fait prêt à l'examen des 77 questions posées par Dieu. Et que quand Dieu lui a présenté, vous rappelez la semaine dernière, toute la création, création de la terre, création du monde animal jusqu'à l'homme, on a vu que M. Job avait de la peine. Et à la fin de ce premier entretien, on a laissé M. Job admettre qu'il était bien petit devant Dieu. Alors cette semaine, on le retrouve dans cette deuxième partie. Et j'ai appelé révolté ou repentant. Il est arrivé révolté, plein de questions, pointant le doigt vers Dieu en disant « Tu vas me répondre, pourquoi ?» Et au chapitre 40, on va lire progressivement aujourd'hui, chapitre 40, verset 8, après une introduction où Dieu le remet dans la même condition que la première fois, à savoir la tempête, la question qui fuse à ses oreilles, c'est « Veux-tu réellement annuler mon jugement ? Me condamneras-tu pour te justifier ? Me condamneras-tu ? » Job est arrivé, homme intègre et droit, obéissant, et on le retrouve 40 chapitres plus tard, condamnant Dieu. Et Dieu lui demande « Veux-tu réellement annuler mon jugement. » C'est intéressant parce que le terme de la condamnation traverse le livre de Job. Au chapitre 9, verset 20, comme transcrit ici, Job dit « Si j'étais juste, ma propre bouche me condamnerait. Si j'étais intègre, elle me donnerait tort. » On est presque content de lire ça en disant « Mais Job, il a quand même conscience que même s'il est bien, des fois, sa bouche ne fonctionne pas bien. Elle condamne. » Au chapitre 10, Job toujours dit à Dieu « Ne me condamne pas. Fais-moi savoir plutôt de quoi tu m'accuses. Si tout ce mal m'arrive, c'est que tu m'accuses de quelque chose. » Job n'a toujours pas vu que c'est simplement sa foi qui est mise en test et que Dieu a confiance en Job. En fait, Dieu a deux tâches. Hein. Une des premières tâches, c'est de montrer que le diable a tort. Le diable, il dit, enlève-lui son entourage, touche sa santé, tu verras, il te reniera en face. Et Dieu a dit, je sais, je le connais. Mais là, premièrement, Job dit, si j'étais vraiment juste, ma bouche me condamnerait. Deuxième chose, il se tourne vers Dieu, au cas où ça marche pas trop, ne me condamne pas. Fais-moi savoir de quoi tu m'accuses. Alors, un de ses amis, le premier, vous savez, celui qui lui a dit, tu récoltes ce que tu as semé. Eh bien, ce même Eliphaz, il va lui dire au chapitre 15 et verset 6, ce n'est pas moi, c'est ta propre bouche qui te condamne. Ce sont tes propres lèvres qui déposent contre toi. Tu penses blanc, tu dis noir. Tu veux faire bien, mais finalement, ta bouche, elle te tue. Et enfin, celui qui, nous avons vu, a essayé de préparer Job du mieux possible pour rencontrer Dieu. Élihu, vous rappelez ce qui était là, que Élihu n'avait une seule intention, c'était la gloire de Dieu. Et il a essayé de dire à Job, attention. Et là, au chapitre 32, verset 3, il est dit, il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et qu'ils condamnaient Dieu. Donc on voit que progressivement, au travers du livre de Job, la condamnation monte. Mais que de Job, ça se transforme à on condamne Dieu. Et quand il y a des maux sur la terre, on condamne toujours Dieu. Un jour, deux hommes se promenaient dans la ville. Un était coiffeur et l'autre avait un métier secondaire. Et en tout cas, le coiffeur, lui, il n'était pas très ami avec Dieu. Et il exprimait toute sa frustration. Il dit, mais si Dieu était là, il n'y aurait pas toute cette pauvreté. Et puis quand il voyait dans les rues des choses, mais si Dieu était là, et si Dieu était là. Et l'autre personne ne disait rien, marchait. Et puis à un moment, il trouve un monsieur avec des cheveux tout hirsutes, mal coiffés, les cheveux longs et tout ça. Et puis, d'un seul coup, celui qui ne parle pas regarde le coiffeur et disait, tu es coiffeur ? Bah oui, mais si tu existais, ce monsieur, il serait bien coiffé. On peut toujours dire que Dieu ne fait pas son travail, n'est-ce pas ? On peut toujours dire que Dieu nous fait des choses qui ne sont pas bien, mais on n'a pas le plan. Et Job a oublié, en se tournant vers Dieu, que plutôt que de plier devant Dieu, chose qu'il n'a pas encore faite, eh bien, il est plutôt en état de rébellion. Dieu, je l'ai dit, tout comme au début du premier entretien, Dieu prépare Job. Tout comme il a préparé les hommes de Dieu à le rencontrer, tout comme il l'a fait au début, au milieu de la tempête, nous dit le verset 6. Au milieu de la tempête, prépare-toi, écoute, je vais te faire une information. Vous savez, dans les aéroports, ou dans les gares, je ne sais plus si ça se fait trop dans les gares, mais au moins dans les aéroports, vous entendez une petite musique et vous savez à la fin de cette petite musique qu'il va y avoir une annonce. Et que parfois, il est bien d'entendre ce qu'on dit. J'ai des amis un jour qui étaient en salle d'attente, et puis en salle d'embarquement, qui était avant la salle d'embarquement, et ils entendaient sans arrêt la sonnerie de la dame qui disait « attention hein !» Ils ne faisaient pas très attention à l'annonce, et puis à un moment, ils montent dans la salle où devait y avoir leur avion, et finalement, leur avion était parti. Alors, ils sont tout de suite allés se plaindre en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?»« Mais messieurs, dames, ça fait une demi-heure qu'on vous appelle. » Et là, Job, Dieu lui dit « écoute ce que je vais te dire. » Job, à la fin de son premier entretien, s'est humilié. Il a reconnu qu'il était petit et que Dieu était grand. Il a vu que face à la création, lui était absolument incapable de faire les choses que Dieu avait faites. Et à nouveau, Dieu va le défier. Dans le premier entretien, il lui a présenté 12 animaux. On verra tout à l'heure qu'il en a. Là, il n'en prend que 2. Mais quelque chose qu'il va avoir en tête pour finir ce chapitre, c'est que Dieu, quelque part, réclame égalité avec Dieu. Il l'accuse de faire des choses, de mal faire des choses, en sous-entendu, moi je les ferai mieux. On n'est pas un peu comme ça, mes amis ? Ah, moi, si j'avais été Dieu, j'aurais pas fait comme ça. Hein ? Ah ben moi, si j'étais intervenu, ça aurait pas été comme ça. Toujours facile, hein, de changer les choses. Dieu veut être égal. Il voulait cet entretien, et je le rappelle, il veut y aller comme un prince. Un prince, c'est quelqu'un qui, hein, quand il arrive, on l'écoute. Quel est le reproche de Job ? Chapitre 21, verset 30, il dit « Au jour de la catastrophe, le mauvais est épargné. C'est toujours lui qui échappe. Au jour de la colère, il est à l'abri. Il ne paye jamais, il n'est jamais pris. » Suggestion de Dieu, chapitre 40, verset 8 aujourd'hui. « Cache-le tous dans la poussière, emprisonne-les dans le cachot. Alors moi-même, je te célébrerai, car ta main droite aura été ton salut. » Tu es capable de faire ça ? Tu es capable de lever la voix pour qu'on t'écoute ? Tu es capable de prendre soin de tous ces gens ? Et regardez bien ce qui est dit. C'est intéressant. Job 40, tournez les pages de votre Bible. « As-tu un bras comme celui de Dieu ? » dit-il au verset 4. « Une voix tonnante comme la sienne. Orne-toi de magnificence, de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. » Répands les flots de ta colère, d'un regard abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. T'es capable de faire ça, Job ? Bah, en tout cas, toi, tu le fais pas bien. On est toujours choqué, n'est-ce pas ? Que les méchants ne soient pas attrapés. Que les méchants ne soient pas punis. Vous savez, quand on se fait avoir en excès de vitesse, mais ça vous arrive jamais à vous. Mais les autres ! Et la gens souvent de dire, mais les autres, enfin quand on pouvait discuter avec eux, hein, avant qu'ils nous envoient la photo, les autres, ils auront leur part, mais en tout cas, vous, monsieur, je vous ai attrapé. Mais on se tourne toujours vers les autres, hein. Je vois souvent des jeunes, là, quand ils sautent les portillons. L'autre jour, il y en avait un comme ça, là, dans une gare où j'étais. Il a sauté le portillon, sauf que derrière, il y avait 2 policiers. Ils ne les avaient pas vus. Donc, à l'atterrissage a été beaucoup plus terrible. Alors, il se tourne vers les agents. Mais les autres ! Il fait, bah, les autres, laisse-les courir. Mais toi, tu ne vas plus courir. On est fâché de se faire prendre. Et Job, il accuse Dieu de ne pas punir. Il accuse Dieu de ne pas donner une sentence assez rigide contre les autres, contre les méchants. Et Dieu le défie et lui dit, mais tu es capable de le faire ? Si tu es capable de le faire, alors je veux voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va utiliser la même méthode que dans la première partie, mais là non pas en faisant une succession de 12 animaux, mais de 2. Pour témoigner davantage de sa puissance, Dieu décrit 2 animaux, j'ai marqué gigantesque, vous allez voir, il y en a un qui est gigantesque, et l'autre, il peut être gigantesque, mais il n'a pas le même volume. Dépassant de loin la taille et la force de l'homme. Au verset 10. Alors la version seconde donne « Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie. » Regardez bien, il dit « comme toi ». Alors, j'ai laissé les mots, dans les différentes traductions, vous avez le « behemoth », hein, qui est l'ancienne version. C'est un hippopotame. Vous avez déjà vu un hippopotame? Ben, si vous en voyez un vigneux un jour, vous me dites. C'est un animal très grand, hein? L'Éternel a créé en effet cet animal épouvantable, mais étonnant. Épouvantable. Ça veut dire quoi, épouvantable? Monstrueux, c'est une grosse bête. On en a peur. On se dit, s'il me met le pied sur le pied, ça va être compliqué. Il mange de l'herbe comme le bœuf, le voici, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans ses muscles de son ventre, il plie sa queue comme aussi ferme qu'un cèdre. Ses nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer, merci beaucoup. Il est la première des œuvres de Dieu. La première, ça veut dire la plus grande. Et grande dans le sens volume. Mais il est étonnant. Il se couche sur les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les sols du torrent l'environnent. Mais le fleuve vient à déborder. Il ne s'enfuit pas. Quand le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen des filets qu'on percera le nez? Un animal très grand. Vous imaginez la taille et la proportion de l'homme face à l'hippopotame? Gigantesque, n'est-ce pas? Et Dieu dit, je l'ai créé tout comme toi. Quelle que soit la force dont dispose une créature, cette force est donnée par Dieu. Mais c'est monstrueux que tu aies fait ça, Dieu. Je connais beaucoup de personnes de sexe féminin, quand ils voient une petite bestiole comme ça avec une grande queue, ils pensent qu'elles sont monstrueuses, les souris. Ma charmante femme, quand elle voit une souris, elle essaye de garder les deux pieds en l'air. Mais ça reste pas longtemps. Dieu contrôle l'hippopotame. Dieu contrôle, mais là il dit bien, tu peux pas le contrôler. Imaginez qu'on fasse de notre hippopotame un animal domestique. On va promener notre hippopotame le soir. Je pense que dans les champs de Plessis-Pâté, ça ferait plaisir à mes voisins. Et puis, il va parler du crocodile. Chapitre 40, verset 20. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Dans le texte original, on a le Léviathan. Dans certains textes, on a traduit la baleine. Dans d'autres, le crocodile. Crocodile, c'est pas comme ça que ça s'écrit? C'est Dieu qui a créé cette puissante créature aussi. Mais on ne joue pas avec, n'est-ce pas? Même si souvent les dames le portent plus au bras, en forme de sac à main. Le crocodile est d'une force colossale, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui l'a créé. Et j'ai marqué là, attention. Verset 27 du chapitre 40, il est marqué, touche à lui de n'importe laquelle de ses manières et tu t'en repentiras. Hein? Là, il fait la description, il dit, te presseras-t-il de supplications, te parlera-t-il d'une voix douce, fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser les jeunes filles, les pêcheurs en trafic-t-il, etc. Et il lui dit, touche-le d'une de ses façons et tu verras que tu vas t'en repentir. Attention. Les créatures que Dieu donne, vous rappelez que la tâche qu'il a donnée à l'homme, c'était de soumettre les animaux, de les diriger, de contrôler la nature. Verset 28, il dit, on est trompé dans son attente, c'est-à-dire dans l'espoir de le vaincre. Dieu montre à Job, tu veux être un contrôleur, tu veux me contrôler moi. Tu veux me mettre dans une boîte, mais moi je crée des choses que toi tu ne peux pas créer. Je crée des choses que toi tu ne peux pas contrôler. Il en est comme ça des événements de la vie, n'est-ce pas? On aimerait bien les contrôler, n'est-ce pas? On aimerait bien être les décideurs. Et il y a plein de choses qu'on éliminerait, hein? La souffrance, les accidents, les guerres, le chômage, les crises, les cris. Mais Dieu, il a créé le monde d'une autre façon. Et il nous a laissés libres. Dans le verset 41-42, il dit, si une créature est trop puissante pour qu'on l'attaque, que doit-on dire du Créateur de toutes ces choses? Il s'est trompé? Dieu, tu as créé des choses, mais finalement, tu ne contrôles plus rien. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résistera en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres, de sa force, de la beauté de sa structure. On accuse Dieu, n'est-ce pas? Même devant les choses tellement grandes. Notre Dieu utilise une certaine pédagogie avec Job. Et il l'utilise souvent dans nos vies. Quand on veut les détails, Dieu nous fait regarder la grande image. Quand on veut l'explication, Dieu nous donne sa vision. Et pour l'instant, il ne répond pas à Job. Dieu ne doit rien à la personne, et pas à Job, même s'il est intègre et juste. Dieu ne doit rien à personne. Il ne me doit pas des comptes, pas plus qu'à vous. L'homme ne lui a rien donné. Qu'est-ce que j'ai donné en échange à Dieu? Ma vie? Mon argent? Mon temps? Mais qu'est-ce qu'il m'a donné, lui? Il a préparé la terre pour que j'y habite. Il m'a donné les moyens d'y être. Il m'a donné un environnement. Il m'a tout donné, n'est-ce pas? Je n'ai rien mérité, je n'ai rien gagné moi-même. Il est donc absurde que l'homme s'imagine pouvoir égaler Dieu. Donc dans son premier domaine, Job sait maintenant qu'il a tort. Il commence à comprendre en regardant les diapositives qu'il s'était mal préparé et que Dieu avait des réponses. Certains des défis téméraires lancés par Job à Dieu impliqueraient que Job est capable de faire ce que Dieu fait. L'homme veut tout contrôler, n'est-ce pas? Les naissances, la couleur des cheveux, la paix, la guerre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Verset 20. Il dit, « Prendrais-tu le crocodile à l'hameçon ?» Verset 26. « Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon ?» Démonstration des compétences de pêcheur. Je ne peux pas le faire. Verset 23. Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Un crocodile esclave. À son service. Verset 24. L'utiliseras-tu comme un jouet? Une fois qu'il est empaillé, peut-être. Les merveilles de la force physique sont destinées à montrer le pouvoir impressionnant de Dieu. Et on a besoin de découvrir ça dans notre vie, n'est-ce pas? Que Dieu est tout puissant. Souvent on dit Dieu est puissant. Il n'est pas puissant. Il est tout puissant. Il va bien au-delà de ce que nous pouvons même imaginer, n'est-ce pas? Capable de contrôler, vous rappelez, sur la mer, la tempête. De dire au ciel, tais-toi. Pour les hommes, ces monstres représentent une force indomptable. En écrivant ces choses, je pensais à une chose, c'est que s'il y a souvent quelqu'un qui est indomptable, c'est pas la force. Mais c'est souvent nous. Difficile à dompter. Difficile à se soumettre. Difficile à obéir, n'est-ce pas? Pourtant, ils doivent se soumettre à leur Créateur. Il approche son épée, au moyen des filets, il lui perce le nez. Seul Dieu est capable de le faire. Seul Dieu est capable de contrôler tous les animaux de la terre, tous les événements de la terre. On a vu la semaine dernière, quand on a parlé de la création, que Dieu avait même mis en réserve les grêlons pour les faire tomber. Qu'il y avait un placard à grêlons, vous vous rendez compte? Dans le ciel. Un abri. Dieu amène finalement Job à l'attitude qu'il n'a pas eue au début. L'attitude de la repentance. La première fois, il a confessé « Je suis tout petit ». Mais admettre qu'on est petit, c'est une bonne chose. Mais ça ne nous amène pas à nous soumettre, n'est-ce pas? Et là, finalement, il l'amène à la repentance et à la foi. La foi va très très mal sans cette repentance. On est capable de suivre des gens en ayant la foi, mais ça n'implique pas notre repentance. Pour suivre Christ, nous avons besoin de nous humilier, de nous repentir et de le suivre. Et on l'a vu avec la vie des apôtres. Il ne peut prétendre sortir de sa situation difficile en niant la sagesse de Dieu. La justice, mets-tu en cause ma justice? Sa puissance, oh Dieu, tu fais des choses gigantesques. Mais après s'être rendu compte combien Dieu est sage, combien Dieu est juste, combien Dieu est puissant, il peut humblement lui faire confiance. Reconnaître, confesser de sa bouche. Romains chapitre 11, on s'échappe de notre texte. Paul décrit ce que Dieu est et dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour pouvoir être payé de retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Je présume que l'apôtre Paul faisait face à un groupe de Job. Des contestataires, des gens qui devaient dire « mais nous on peut ». Et Paul leur avait déjà dit dans le chapitre 1 que on pouvait voir la gloire de Dieu dans la création. Et là dans ce chapitre 11 il dit « mais qui a connu la pensée du Seigneur le premier ? Qui lui a donné ?» C'est la résonance de ce qui est dit à Job. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. C'est pas notre gloire. Nous ne sommes pas ces extraterrestres, ces stars qui devront être glorifiés. Mais notre Dieu, oui, à lui la gloire. Alors finalement, dans l'introduction du chapitre 42, Job va donner la bonne réponse. Il va commencer par dire, je sais que, et on aurait, il faudrait vérifier l'original, mais j'aurais aimé que même après le je sais, il est marqué maintenant. Je sais maintenant que tu peux tout. Qu'aucune pensée ne t'échappe, qui est celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets. Ainsi j'ai parlé sans comprendre des choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute, je te prie, moi je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Oh, je savais qui tu étais, mais maintenant je t'ai vu. L'apôtre Paul, qui es-tu? Je suis celui que tu persécutes. C'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et dans la cendre. Waouh! Voilà la réponse que Dieu attendait. Parce qu'il avait confiance en Job. Et Job, au fur et à mesure, et ça nous arrive à tous, hein. Je dirais, c'est presque normal quand on souffre longtemps qu'on finisse par baisser les bras. Qu'on finisse par dire, mais ça n'en finira donc jamais. En 1975, après 3 mois de lit, on m'annonce, j'avais un plâtre qui allait du haut de la jambe jusqu'en bas, coincé au lit, et on m'annonce qu'on va me changer pour me mettre un plâtre de marche. Et là, mes amis, la nuit d'avant, j'ai fait des rêves. Que je pouvais, avec mes béquilles, me déplacer, aller dans le jardin, profiter du soleil. Le lendemain, on m'endort. Je dis, docteur Thomas, ça va aller? Oui, tout va bien, Jean-Claude dort. Je me réveille et instinctivement, je mets ma main au haut de ma cuisse, où là, je voulais sentir ma chair. Me dire, ah, ça fait tellement du bien de sentir ma chair. Et j'ai senti du plâtre. Et tiens, ils ont oublié de l'enlever. Non. Ça a duré 40 jours de plus. Là, mes amis, on lève pas la voix vers le ciel en disant « Béni soit le Seigneur ». D'abord, je le connaissais pas, j'étais plutôt son ennemi, là. Mais on n'aime pas ses réponses. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu permets ça, Dieu? Je me repens dans la poussière et dans la cendre. Job a fini par comprendre, oui, que Dieu est puissant. On peut le concevoir. Mais admettre, Seigneur, j'ai besoin de m'humilier devant toi, de te demander pardon, parce que j'essayais de tout faire moi-même, parce que finalement j'ai pris ma main en charge, et tu ne fais pas partie de mon décor. Finalement, tu n'es pas celui qui me guide. Et Job, cet homme intègre et juste, va être rétabli. On va lui donner le double de ce qu'il avait. Il va vivre 2 fois plus longtemps qu'il avait vécu. Bon, il n'aura toujours qu'une seule femme, hein, rassurez-vous. C'est marqué dans le texte. Mais qu'il aura le double de ses enfants. Qu'il aura le double de son bétail, le double de ses ouvriers. Et qu'on va demander à ceux qui l'ont démonté, Eliphaz, Bildad et Tsophar, d'offrir un sacrifice pour les choses qu'ils ont dites. La manifestation de la gloire de Dieu a conduit une expérience sans précédent, du pardon divin envers Job. Sans précédent. 2 éléments sont associés à cette nouvelle expérience. Premièrement, une confiance qui n'avait pas existé encore sur la providence divine, sur ce que Dieu donne. Verset 42, verset 2. Tu peux tout. Tu peux toute chose. Job le verrait révolté, ignorer qu'aucun dessein divin ne pouvait être contrecarré. La deuxième chose, c'est la repentance et la relation, le rétablissement de cette relation avec Dieu. On peut mettre des obstacles, on peut mettre des barrières. On peut empiler tellement de choses. Déjà entre chrétiens, ne pas se parler, ne faire la tête, décider de ne plus appeler, de ne plus visiter, parce que j'ai entendu un mot de travers, parce que je n'ai pas compris l'action, la réaction. Mais on peut faire la même chose avec Dieu, n'est-ce pas? Job repentant en est pleinement convaincu. Il a fallu qu'il baisse pavillon, qu'il baisse les armes. Job renonce maintenant complètement à la force de ses paroles et de sa raison humaine. Verset 3 de 42, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Ce que je veux, c'est une réplique du chapitre 38, verset 2. Ses paroles, sa sagesse desquelles il s'était enorgueilli, avaient tout simplement voilé son écran opaque, le plan des actions de Dieu. La douleur, la rancœur voilent nos yeux, mes amis, voilent les yeux de notre cœur. Et on voit plus clair, et Dieu devient notre ennemi. Il devient notre âme ennemie. Celui sur qui on comptait, mais finalement, ses desseins, j'aime pas. Ses réponses, je n'aime pas. Ses décisions, je n'aime pas. Finalement, c'est mon ennemi. Romains chapitre 3, verset 23, tous, Job compris, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24, mais c'est gratuitement qu'ils sont justifiés. Par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelle histoire ! Ce livre m'a fait tellement de bien à relire, retravailler. C'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous, parce que c'est important dans notre vie, qu'on ne laisse pas notre vue s'obscurcir. Et vous savez, ça ne vient pas du jour au lendemain. Petit à petit, notre vision s'amenuise. Petit à petit, on ne regarde plus du même œil. Et Job a fait cette expérience. Mais par la grâce de Dieu, à la fin de ce livre, il change. Il se repent. On a utilisé plusieurs fois ces choses. Quand quelqu'un souffre, il a besoin de grâce. Pas de jugement. Dieu lui a donné sa grâce. Quand quelqu'un souffre, il a besoin d'amour. C'est ce que Dieu lui a montré. Pas la loi, rappel à la loi. Quand quelqu'un souffre, il a besoin de miséricorde, pas qu'on lui rajoute de misère. Quand quelqu'un souffre, il n'a pas besoin d'un doigt accusateur, même si à la fin c'était Job qui utilisait ce doigt, mais de deux bras pour le réconforter. Et c'est ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? En le narguant, en lui montrant les choses puissantes qu'il faisait, Dieu attendait une chose. De pouvoir prendre Job dans ses bras. De pouvoir l'accueillir à nouveau comme son enfant, même s'il l'était en étant rebelle. Seul Dieu peut transformer nos mésaventures, en messages. Seul Dieu peut transformer nos tests, nos épreuves, en témoignages. Nos tribulations, en triomphe. Nos actes de victime en actes victorieux. Est-ce qu'aujourd'hui on aimerait prier ensemble? Seigneur, fais du révolté que je suis. Et j'aurais pu mettre ici devenu. C'est justifié, Seigneur. C'est normal que je sois en colère. C'est normal que je vois plus rien. C'est normal que j'ai mal. J'ai le droit de crier. Seigneur, fais du révolté que je suis une personne qui va laisser grandir Jésus en lui. Merci pour la grâce qui se renouvelle chaque matin. Merci pour cette grâce qui se renouvelle chaque matin. On veut prier ensemble? Qu'à l'image de Job, on ne devienne pas ces gens obscurcis. Qu'on ne devienne pas ces gens amers, ces gens avec du rancœur. Mais au contraire, ces gens qui gardent confiance en Jésus-Christ, qui gardent un contact étroit avec lui, parce que lui ne change pas. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Te remercier pour la vie de Job, que tu nous as laissé en exemple. Nous ne voulons pas pointer du doigt ses défauts, Seigneur, parce que nous sommes les mêmes. Nous ne voulons pas pointer du doigt ses erreurs, parce que nous commettons les mêmes. Mais nous voulons regarder ta grâce et ta miséricorde, ta grandeur, ta ta puissance, ta justice. Elle s'accomplit chaque jour dans nos vies et nous ne la voyons pas. Elle se manifeste dans ta création et nous ne la regardons pas. Merci parce que tu es le créateur de toutes choses et tu nous as créés aussi. Merci parce que tu es patient à nos côtés. Parce que tu es cet ophtalmologiste qui renouvelle la vue de nos yeux. Tu es cet oculiste qui nous donne les bonnes lunettes pour voir avec notre cœur. Tu es ce chirurgien capable de transformer notre vieux cœur mauvais, cœur de pierre, en un cœur de chair. Seigneur, je veux te présenter notre communauté à nouveau, comme chaque dimanche. C'est ta communauté, ce sont tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous qui avons cru en Jésus, nous qui avons confessé nos péchés. Et Seigneur, ce matin, nous voulons faire acte de repentance. À chaque fois que nous avons laissé nos yeux s'obscurcir. À chaque fois que nous avons laissé nos larmes ne plus voir ta grandeur, ta justice, ta paix, ton amour. À chaque fois que nous avons laissé notre cœur s'endurcir, au point de ne plus nous sentir aimés par toi et de t'accuser de tous les maux. Seigneur, pardon. Mais ce matin, Seigneur, tu veux toucher des cœurs. Tu le fais presque chaque dimanche. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Des garçons, des filles, qui peut-être sont dans cette situation, la même situation de Job, qui ont souffert, qui souffrent, qui ont laissé l'amertume, la rancœur, la méchanceté, la rébellion prendre le pas sur ce que tu as fait dans notre vie ou dans leur vie. Et ce matin, tu veux, tout comme Job, leur montrer ta grandeur, leur montrer ton amour, ta justice. Donc si ce matin vous vous reconnaissez dans ces qualificatifs et que vous reconnaissez dans votre cœur que vous avez laissé, même si vous aviez des bonnes raisons de le faire, vos yeux de ne plus voir l'amour de Dieu, votre cœur devenir endurci, votre miséricorde, votre amour devenir presque inopérante. Alors ce matin, Dieu veut simplement vous aider. Il veut vous aider à revenir vers lui, à nouveau avoir confiance. Baissez pavillon devant lui. Il vous aime. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Oui? Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est pas facile, oui? Que Dieu vous bénisse, oui? C'est pas facile, n'est-ce pas? On s'aperçoit quand on fait l'examen, oui, que Dieu vous bénisse, que quelque chose ne va plus. Mais Dieu est toujours prêt. Il est celui qui se tient à côté de nous. Y a-t-il quelqu'un? Oui, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Quelqu'un encore qui aimerait que je prie? Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur notre Père, nous te louons ce matin que ta parole a pu encore toucher des cœurs. Merci parce que tu nous parles et ta parole ne revient jamais sans effet. Bénis ses amis, Seigneur. Tu vois ce qui est abîmé, tu vois, c'est toi le médecin, c'est toi qui nous as créés. Tu sais exactement qu'est-ce qui ne va plus. Notre cœur, nos yeux, notre âme, nos pensées, notre bouche. Je te demande, Seigneur, de bénir ces amis qui ont levé la main. Qu'ils puissent voir dans les jours qui viennent comment, comme Job, Seigneur, tu veux les bénir. Tu veux les accompagner, tu veux les aider, tu veux leur redonner cette vision qui est la tienne. Bénis-les, Seigneur, fais-leur du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen.